7h26, l'affaire Harvey Weinstein, le tout-puissant producteur américain, fait des vagues jusqu'au Québec. Hier, on parlait de l'affaire Éric Salvaille, dévoilée par la presse. Un témoin qui se nomme, 10 qui préfèrent demeurer dans l'ombre, mais tous décrivent un comportement d'Éric Salvaille en milieu de travail, donc en relation professionnelle. On parle de ce qu'on appelle souvent des gestes de harcèlement sexuel, ou encore carrément d'exhibitionnisme. Je n'ai pas besoin de revenir sur les détails, vous les connaissez. Il a été suspendu de la radio, de la télé, perdu ses contrats de publicité. Il a dit hier par communiqué qu'il regrettait évidemment les inconvénients causés par ses gestes et annonçait du même souffle qu'il prenait une pause. Ce matin, nous vous parlons du producteur très puissant, Gilbert Ozon. Monique Néron et Émilie Perrault ont enquêté après des informations transmises par des femmes qui ont été, au fil des ans, sur une période d'une trentaine d'années, donc victimes à un moment ou à un autre de leur vie, des gestes posés par Gilbert Ozon. Certains appellent ça des inconduites sexuelles. On peut parler d'un pattern quand les cas se répètent. Et quel est le pattern? C'est d'abord une relation de pouvoir sur des femmes, en particulier, dans le monde professionnel. Donc, des gens qui travaillent avec lui ou encore des gens qui gravitent autour de lui pour des raisons, je le disais, de travail. Et vous allez voir par les témoignages que ces femmes ont donc subi d'abord et avant tout un abus de pouvoir avant de subir par la suite un abus de nature sexuelle. Monique, évidemment, tout ce mouvement aux États-Unis a donné le ton et surtout le goût à ces femmes de parler.
Oui, cette enquête s'inscrit effectivement dans la foulée de l'affaire Weinstein. Émilie et moi avons enquêté également à la suite de ce mouvement, moi aussi, qui a déferlé sur la France, sur le Québec au cours de la dernière semaine. On a interviewé 10 femmes qui ont accepté de témoigner à visage découvert et de nous raconter finalement ce qu'elles ont vécu. Elles sont animatrices, réalisatrices, comédiennes, recherchistes, entrepreneurs, productrices. Elles avaient entre 14 et 27 ans au moment des événements et elles ont donc, avec toute l'humilité, la dignité et le courage que ça prend, décidé de briser des années de silence. En fait, ensemble, ce matin, elles brisent 35 ans de silence et on a choisi de vous présenter 5 témoignages.
Et on va procéder donc de façon chronologique. Donc, on va commencer avec Lynn Charlebois, qui est réalisatrice. On est en 1982. À l'époque, elle est photographe. Elle nous a raconté qu'elle avait un rendez-vous avec Gilbert Ozon pour lui montrer son portfolio de photos pour le festival à Grande Virée. Donc, elle le rencontre à son bureau en matinée. Il aime les photos, mais il lui dit qu'il n'a pas le temps et il lui propose donc de la revoir en soirée pour en discuter plus longtemps. Il passerait la chercher chez elle pour aller échanger autour d'un verre. Lynn nous raconte donc qu'il arrive chez elle à l'heure du souper. Elle est avec son chum et finalement, tous les trois partagent un pâté chinois. Et comme prévu, Gilbert et Lynn conviennent d'aller poursuivre la discussion dans un bar pour parler photographie. En chemin, Gilbert Ozon dit qu'il veut passer chez lui, changer de chemise. Il habite tout près. Elle le suit dans son appartement.
Donc, je me retrouve chez lui parce qu'il veut changer sa chemise. Je trouve que c'est long un peu. Il allume un joint. Puis moi, j'étais tellement excitée là, d'avoir peut-être un de mes premiers contrats en photo. Et puis là, la première chose que je sais, c'est qu'il saute dessus. Baisse les culottes et je me dis, il vient de rencontrer mon chum. Je l'ai vu pour la première fois le matin. Ben, j'ai figé. J'ai complètement paralysé. J'ai fait la planche. J'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, c'est qui ce gars-là? Il a peut-être barré à la porte et j'ai eu peur de mourir. C'est pas compliqué. Alors là, je l'ai laissé faire, puis j'ai attendu qu'il finisse. Et je me suis dépêchée, tout ramassé mes affaires, puis je suis partie. Je suis allée voir mon chum, puis j'étais en mignette. J'ai jamais pensé porter plainte. Ça m'est même pas venu à l'idée. Moi, ce qui a monté dans moi, c'est la honte. Ça fait 35 ans que je suis rendue de colère, parce que c'est un acte grave. Puis moi, je suis quand même vue comme une femme forte, et à moi, ça m'a fait un mal énorme, parce que c'est épouvantable.
Il faut préciser que plus tard, une amie de Lynn Charlebois lui confie qu'elle a été violée, elle aussi, par Gilbert Ozon, et elles ont voulu porter plainte en 1998, quand une croupière a accusé Gilbert Ozon d'agression sexuelle au manoir Rouville-Campbell, accusation pour laquelle il a plaidé coupable et il a obtenu une absolution inconditionnelle. Les policiers qu'elles ont rencontrés lui ont dit que l'événement était trop vieux et qu'elle ne pouvait pas porter plainte. Et cette semaine, donc dans la foulée de l'affaire Weinstein, elle a décidé de faire une publication sur sa page Facebook en invitant des victimes à se regrouper. Et c'est ce qui nous a permis de parler, entre autres, avec Anne-Marie Charette.
Anne-Marie Charette, Paul a 55 ans. Elle est recherchiste et en cinéma et télévision. Et on remonte à l'été 1987. Dans son cas, à ce moment-là, elle a 25 ans. Elle est engagée à la promotion pour les monstres de l'humour du festival Juste pour rire. Et là, il nous raconte que dès son arrivée, elle remarque que le grand patron, Gilbert Rozon, entre constamment dans sa bulle. Il lui tourne autour, elle se sent profondément inconfortable. Et là, le festival commence et Gilbert Rozon l'appelle, elle, directement, ce qui est déjà très inhabituel.
Et là, il me dit, Anne-Marie, il faut que tu viennes à l'hôtel parce qu'à ce moment-là, on était à l'hôtel du parc. Il me dit, viens, il faut absolument que tu m'apportes tel dossier, j'en ai besoin. Je suis dans la chambre, tel numéro, un tel. Et là, ben, j'ai comme, je suis déjà concernée de sa gamique, puis je lui dis non. Je lui dis non, je veux pas y aller. Je sais que t'as pas besoin du dossier, puis je sais pourquoi tu me fais venir. Je raccroche, mais là, je suis comme super nerveuse et le cœur me débat parce que je viens de dire ça à Gilbert Rozon. Il m'a rappelé peut-être 10 fois. Puis là, mais mon sous-boss, je lui en parle. Puis là, il me dit, ben si Gilbert t'appelle pour avoir un dossier, vas-y. Puis là, je pars avec mon sac à dos, je marche jusqu'à l'hôtel et j'arrive avec le dossier dans mon sac à dos et je cogne à la porte et je sais ce qui m'attend. Ou en fait, je l'appréhende. Puis, en effet, il ferme la porte, il me pousse sur le lit. Et là, ses yeux sont exorbités comme une espèce de regard de fou. Tu sais, il essaye de me coucher. Puis là, moi, je fais non, tu me feras rien. Finalement, il m'a laissé sortir de la chambre d'hôtel. Mais c'était un harcèlement de ses faits pendant des mois.
Anne-Marie Charette nous a dit qu'elle a perdu son emploi à la suite de tout ça chez Juste pour rire. Ce qui nous mène à l'année suivante. On est en 1988. Sophie Moreau est recherchiste en cinéma et télévision. Elle est la fille de l'humoriste et imitateur Jean-Guy Moreau, qui est décédé en 2012. Et en 88, elle a 15 ans. Son père connaît très bien Gilbert Rozon. Elle est donc embauchée comme réceptionniste chez Juste pour rire. C'est son premier emploi d'été.
Puis la première fois, c'est un soir pendant le festival, il y avait un spectacle à la Place des Arts. À l'époque, je connais vraiment bien la Place des Arts parce que mon père était là souvent. Fait que je connais les loges, je connais toutes, là. Puis Gilbert, il m'a amené backstage, mais pas dans le bon backstage. Puis il m'a amené dans la salle de comme les trucs de maintenance. On descend un escalier métallique, puis il fait noir en bas, puis je le sais qu'on va pas à bonne place. Je le sais. Parce que je la connais, la place. Mais je descends parce que c'est Gilbert, c'est le meilleur ami de mon père, puis j'ai confiance en lui, évidemment. Puis là, il me prend dans ses bras, puis il me dit « embrasse-moi ». Puis il me regarde, puis j'ai 15 ans, je suis quand même développée à cet âge-là, même pas mal développée. Et bref, il me presse contre lui, puis il veut que je l'embrasse, puis je refuse, évidemment, et je le repousse. Je dis non, mais pas violemment, juste non. Moi, j'ai embrassé un gars dans ma vie avant, le fait que je suis vraiment pas prête. Fait que il part à rire, il voit que il y aura rien, ça marchera pas, puis je suis terrorisée.
L'année suivante, donc à l'été 1989, Sophie Moreau a donc 16 ans. Elle n'a jamais rien dit à ses proches, à ses parents. Son père ignore absolument tout de la situation. Elle retourne donc travailler comme réceptionniste.
Tous les soirs de festival, Gilbert s'est essayé. Il m'a demandé de coucher avec, de l'embrasser. Il me prenait par la taille, par en arrière. Il me faisait des avances. Bref, ça a été du harcèlement sexuel qu'il a fallu que je le repousse tout le temps. Ça a été difficile.
C'est environ une dizaine d'années plus tard, Paul, qu'elle a raconté finalement à ses parents, à son père, ce qu'elle avait vécu. Son père qui a dit, elle racontait avec beaucoup d'émotion, il est tombé des nues, il était choqué, triste et vraiment très en colère.
Ça nous mène maintenant en 1990. Cette fois, c'est Salomé Corbeau qui aujourd'hui est comédienne. À l'époque, elle a 14 ans. Elle travaille au festival Juste pour rire dans les animations de rue. Et un soir de rap party, voici ce qu'elle nous a raconté.
Et lors d'un de ces gros parties de fin de festival, Gilbert, qui était très, très intoxiqué, là, c'était visible à l'œil nu et à l'odeur, m'a sauté dessus, agrippé, a commencé à passer ses mains sous ma robe. Et je me suis mis à dire, ben voyons, Gilbert, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans et je suis quand même une jeune fille qui parle fort puis qui est capable de se déprendre. Fait que j'ai renommé très fort, j'ai 14 ans, espérant que les témoins autour, puisque c'était une fête en extérieur, dehors, entendent et réagissent, mais visiblement, les gens n'ont pas capté mon cri. Et au moment où Gilbert est descendu vers ma petite culotte et qu'il a réussi à y insérer un doigt, j'ai réussi à vraiment le repousser parce que, bon, ben j'ai toujours été un peu baraquée. Et il a juste fait volte-face, il a disparu.
Le prochain témoignage est celui de Penelope McQuaid. Et ça nous amène en 1997. Elle est chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour. Pendant le festival Juste pour rire, elle travaillait sur un quart de nuit. Je vous explique, c'est qu'elle allait voir les spectacles en soirée. Elle restait sur place et elle allait directement à TVA aux alentours de 3 heures du matin. Donc, elle dormait pendant la journée après l'émission. Donc, on est dans un contexte de travail. Elle n'a pas bu. Elle est, avec sa fréquentation de l'époque, au cabaret du musée Juste pour rire.
Donc, je file en direction de la salle de bain, ouvre la lumière et tout de suite après moi, je sens donc quelqu'un qui rentre. Je sens, en fait, je vois la lumière se fermer et j'entends la porte se barrer et quelqu'un que j'ai aperçu était Gilbert Rozon. J'aimerais dire enlacé, mais c'est un terme trop... trop tendre pour ce qui s'est passé. Il s'est, bon, jeté sur moi. Et j'ai complètement figé, complètement gelé, lui aussi d'ailleurs. Au bout d'environ, je présume être une minute de plainte, de plaidoyer, de je me rappelle juste mes phrases qui résonnent dans mon oreille, c'était Gilbert non, Gilbert non, Gilbert non, Gilbert non. Et c'était juste ça. Et ça s'est pas rendu plus loin. Je me suis donc extirpée de son étreinte. Je suis sortie de la pièce. J'ai dit à la personne que je fréquentais à l'époque, viens, on s'en va. Évidemment, ça a pas de commune mesure avec un viol ou une agression violente. Mais tout ça rentre sous le chapeau de la honte qu'on peut ressentir, de la culpabilité qu'on peut ressentir. Alors, c'est sûr que j'ai, comme bien des gens, tendance à diminuer, à minimiser, à banaliser l'expérience. Mais ces comportements-là sont inacceptables.
Et donc, on vient de couvrir là, une période, je vous rappelle, de 35 ans, là, de 1982 jusqu'à 1997. Et pourquoi 35 ans? C'est parce qu'en décembre 2016, il y a une jeune entrepreneure de 25 ans qui a porté plainte au SPVM. Elle allègue avoir été agressée sexuellement par Gilbert Rozon en marge de ce qui devait être au départ un rendez-vous d'affaires, là, disons-le, pour du mentorat à la suite de son passage à l'émission Les Dragons. Et au terme de l'enquête, selon ce qu'on avait appris là, d'ailleurs au printemps dernier, lorsqu'on avait commencé à recevoir des informations sur cette affaire, un procureur du DPCP et un sergent détective ont rencontré la plaignante pour lui dire quoi? Pour lui dire qu'il n'y aurait pas d'accusation pour le moment, que l'enquête demeurait ouverte, mais que sans preuve nouvelle ou sans, par exemple, une nouvelle plaignante, il serait impossible d'aller de l'avant. Mais hier, il y a une femme que nous avons d'ailleurs rencontrée un peu plus tôt cette semaine, mardi, qui a requis l'anonymat. Elle a décidé de porter plainte, de joindre sa voix également à cette enquête. Donc, elle a porté plainte au SPVM. Elle aurait été agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel de Paris en 1994. Et d'ailleurs, en terminant à cet effet, il y a un tweet du SPVM qui a été envoyé qui dit ceci. « Vous êtes victime d'harcèlement, d'agression sexuelle. Dénoncez à votre service de police. Nous sommes à l'écoute. »
Évidemment, nous avons exposé hier à un membre de l'équipe de Gilbert Rozon les résultats de notre enquête. Nous avons sollicité une entrevue avec lui. Gilbert Rozon a décidé de ne pas commenter avant d'avoir entendu les témoignages que nous avions recueillis. Et 2 heures plus tard, il annonçait sa démission dans une déclaration officielle sur Facebook. Je vous en lis un extrait. « J'annonce que je quitte dès maintenant mes fonctions de président du groupe Juste pour rire, de commissaire aux célébrations du 375e de Montréal, ainsi qu'en tant que vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. » Et il conclut un peu plus loin. « À toutes celles et ceux que j'ai pu offenser au cours de ma vie, j'en suis sincèrement désolée. »
Merci beaucoup, Monique et Émilie. Il y a un certain nombre de choses à ajouter avant d'aller à la pause. Là. D'abord, je rappelle la présomption d'innocence. Je rappelle aussi qu'il y a donc une plaignante qui s'est ajoutée et qu'il pourrait y avoir d'autres plaintes de nature criminelle. Mais jusqu'à maintenant, présomption d'innocence. Je rappelle aussi qu'il avait plaidé coupable, donc pour cet événement à Rouville-Campbell, et qu'il a obtenu une absolution. Je rappelle également, vous l'avez sans doute noté, mais je pense que c'est important de le souligner, que dans certains cas, les victimes étaient mineures. Et je pense que c'est majeur de souligner. Il faut ajouter aussi un certain nombre de choses concernant le contexte. D'abord, ces femmes ont accepté de parler aujourd'hui parce qu'elles peuvent le faire ensemble. Et évidemment, on le disait au début, ça découle de tout ce mouvement aux États-Unis. Et la question qui se pose, là, les auditeurs me l'envoient par courriel ce matin, pourquoi attendre, pourquoi ne pas porter plainte avant et pourquoi le faire maintenant?
Et évidemment, c'est une question qui a été abordée quand on les a rencontrés. Puis je vous propose d'écouter deux extraits, en fait, les réponses de Salomé Corbeau et de Penelope McQuaid. Ouais.
Suite au « moi aussi » à MeToo, j'ai senti une vague de femmes qui voulaient le dire sur la place publique et qu'il est temps maintenant que c'est pas juste « moi aussi », c'est « lui aussi ». Et il faut nommer le « lui ».
Voici la plaie béante qu'on vous montre et qu'on garde, et la voici. Elle est maintenant offerte pour tout le monde à regarder. Ce sera plus possible de dire « ça n'existe pas, c'est de la fabulation, c'est seulement dans un certain cercle, ça arrive juste aux autres. » Ce sera juste plus possible pour tout le monde maintenant de faire face à cette situation-là et de prendre position.
Bon, alors, vous venez d'entendre deux de ces femmes dire « pourquoi ?» Et par expérience, je vous dirais aussi que de porter plainte ou que de dénoncer publiquement quand on a été victime d'une agression, c'est pas simple. Et je prendrai, et je l'ai fait tantôt, mais je vais le répéter, l'exemple de Nathalie Simard. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé avant? Pourquoi est-ce qu'elle a attendu? Pourquoi, à ce moment-là, elle a trouvé que c'était le moment précis pour aller dénoncer à la police Guy Cloutier? Parce que c'est pas simple, puis c'est difficile. Et c'est pas vrai, là, puis les gens qui n'ont jamais vécu d'agression, là, qui pensent que tu te fais séquestrer, tu te fais sauter dessus, puis ton premier réflexe, facilement en sortant, c'est d'aller voir la police. Ça peut, dans certains cas. Mais dans d'autres, non. Et l'alignement des planètes fait en sorte, ce matin, que ces femmes ont donc décidé de parler. L'autre chose qu'il faut insister, sur laquelle il faut insister, on parle du milieu culturel, du milieu artistique. Mais je le vois par vos courriels ce matin, ça s'applique à d'autres milieux, pour ne pas dire à tous les milieux. Un seul exemple. Deux femmes, deux avocates dans un bureau de Montréal m'expliquent, je cite, « Nous avons notre Gilbert Rozon, maître un tel. » Et elles hésitent à porter plainte parce qu'il y a un enjeu de carrière. Elles sont convaincues qu'elles vont perdre leur emploi. Grand bureau d'avocats, centre-ville de Montréal. Je vous dirai pas qui, mais je peux pas dénoncer à la place des victimes. Et dans tous ces cas-là, il faut respecter la décision des victimes. Quand elles jugeront que le moment est venu, j'imagine qu'elles le feront, et peut-être qu'elles ne le feront jamais non plus. Comme il y a des gens qui ont été victimes et qui ne l'ont jamais dénoncé, pour des raisons qui leur appartiennent. Mais ça existe donc dans le milieu des avocats, dans le milieu des affaires, dans le milieu de la construction. Parce que, on va conclure là-dessus, ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que la motivation première, c'est pas juste le cul, là. C'est un abus de pouvoir qui se transforme en abus sexuel. Et ça, c'est un trait dominant. Et des gens qui comparent l'affaire Salvaille à Joël Legendre sont dans le champ. Je défendrai pas Joël Legendre, là, qui est allé creuser dans un parc en public, là. Là, on parle de deux entrepreneurs, deux producteurs qui sont dans un univers de travail ou de relations professionnelles. C'est pas de la crouse qui tourne mal, là. Ce que tu fais dans un bar gay, t'es pas supposé faire ça dans un bureau. Avec des employés ou des gens avec qui tu travailles et sur lesquels t'as une autorité. C'est la même affaire. Si tu es dans une partouze, c'est une chose, mais tu peux pas faire ça dans un rap party avec des employés, surtout quand ces gens-là sont mineurs. Et c'est ça la différence sur ces événements. On va s'arrêter pour la pause, 7h46.